Cube Radio.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon jeudi. Vous avez sûrement parlé de cette histoire, cette école à Montréal qui a dû fermer parce qu'il y avait une éclosion de cas et tout semble pointer vers une enseignante en art plastique qui non seulement n'était pas vaccinée adéquatement, mais qui en plus avait un masque à géométrie variable. Des fois, elle portait, des fois, elle portait pas. Et donc, résultat, il y a 8 des 11 classes de l'école avec des élèves qui ont été contaminés à la COVID-19. La prof elle-même aurait contracté la COVID-19. Et je sais pas si vous avez entendu dans différents reportages ce petit garçon, Lucas, qui dit que, bon, ben, cette prof-là était vraiment trop proche d'elle. Donc, les enfants lui disaient « recule donc un peu ». Et quand c'est rendu que dans nos écoles, les enfants hauts comme trois pommes ont plus de jugement que les professeurs, moi, je m'excuse, mais ça me fait pousser un grand. Ben, voyons donc.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, aujourd'hui, on vous présente un texte exclusif sur les entreprises au Québec qui ont reçu le plus de plainte de l'OQLF, l'Office québécois de la langue française, en lien avec le français, évidemment. Je savais que ça allait faire réagir Sophie Stanquet, qui est présidente et porte-parole du mouvement Québec-Français-Montréal. Sophie, bonjour.
Bonjour Sophie.
J'imagine, alors, oui, j'imagine que quand tu as vu le texte dans le journal de ce matin, tu as poussé un grand « Oh my God
». Oui, ben enfin... En français, j'ai fait « Oh mon Dieu ».
Je te taquine, ouais.
On s'y attendait parce que les commerçants, les multinationales sont en train de nous effacer dans le paysage linguistique de Montréal. Effacer une langue, c'est effacer un peuple. Donc, en ce moment, ce qu'on a vu depuis les dernières années, finalement, ils sont en train de dire « Voici, le français, c'est pas important ». Et donc, nous, on a une façon de faire en sorte qu'on peut avoir un poids économique, c'est-à-dire on peut boycotter ces gens-là, décider de ne plus y aller parce que ne pas se faire servir en français, afficher dans une autre langue que la nôtre, eh bien c'est de l'irrespect envers nous. Et donc cette enquête démontre, c'est un paysage de ce qui se passe réellement. Et bravo au Journal de Montréal de le publier en première page parce que ça veut dire que le français, c'est important pour le Journal de Montréal. Et l'Office québécois de la langue française, eh bien, ils ont demandé des moyens au niveau de la refonte de la loi 96. C'est important que l'Office québécois ait plus de moyens pour encadrer, pour envoyer des gens qui vont donner aussi des contraventions.
Alors, c'est important de rappeler à tout le monde, l'OQLF ne fonctionne que sur la base de plaintes. Si tous les Québécois se taisent et ne font rien, l'OQLF ne va pas de son propre chef aller dans les différentes entreprises. Donc, il faut qu'il y ait des plaintes. Une fois qu'il y a une plainte, l'OQLF va faire ses recherches et inspecter. Alors, ce qu'on apprend dans ce reportage du journal, c'est que cette année, c'est la pire année en matière de plaintes déposées à l'OQLF depuis au moins 5 ans. Donc, la plupart des plaintes, évidemment, c'est la région de Montréal. Est-ce que ça t'étonne que ce soit la pire année en matière de plaintes, en tout cas au cours des 5 dernières années?
Non, ça m'étonne pas du tout. 4326 plaintes, ça m'étonne pas du tout. On a parlé du français, on va continuer à en parler, mais il faut dénoncer absolument. Dénoncer, mais aussi faire des actions. Je vais revenir, Sophie, avec ce qu'on a au niveau de la loi de la langue française. C'est très important parce que à ce niveau-là, il faut agir. En 1977, dans la charte de la langue française, il est écrit « L'affichage public et la publicité commerciale doivent se faire en français » et dans une autre langue. Ce que propose le projet de loi 96, ça veut dire la refonte de la charte de la langue française, c'est l'affichage commercial extérieur devra assurer de mettre en prédominance le français. Donc, là encore, on est faible. Là encore, on n'a pas des outils assez forts. On devrait dire que l'affichage commercial extérieur doit être en français uniquement. Et ça, c'est une... Et ça, c'est pas bien. C'est ce qui explique ce qu'on a dans les commerces. En première position, Tim Hortons. Je sais pas si ça va être encore des amis pour les Québécois, mais Tim Hortons, on parle surtout des services à l'intérieur. Parce oui. qu'il y a l'affichage à l'extérieur, oui, mais c'est à l'intérieur. De ne pas se faire servir en français, c'est une honte.
C'est une honte et ce qui est assez particulier, bon, on donne des exemples évidemment de ces grandes compagnies-là qui, bon, c'est pas surprenant, c'est souvent des multinationales ou des compagnies supranationales. C'est que quand on se plaint, quand on va dans ces commerces-là et qu'on se fait servir en anglais seulement, souvent les employés sont surpris, ne comprennent pas. Combien de fois, moi, ça m'est arrivé d'aller chez Starbucks, par exemple, pour pas les nommer, et de me faire répondre, parce qu'avant, j'habitais à Ville-Mont-Royal, et j'allais au Starbucks de Ville-Mont-Royal, je me faisais servir en anglais seulement, et je disais, mais comment ça fait que vous me parlez pas en français? Puis les gens me répondaient, ben, on est à Ville-Mont-Royal, il y a beaucoup de gens qui parlent anglais. Mais c'est quoi cette réponse-là? Comment ça se fait que ça. Même les gens dans les compagnies même ne sont pas sensibilisés à ça?
Non, et ils sont pas sensibilisés, et d'autant plus que les multinationales sont très loin de notre fait français, vraiment très très loin, et ça les intéresse pas du tout. Le seul pouvoir que nous avons, malheureusement, c'est un pouvoir économique, parce qu'on peut aller rencontrer la personne, le gérant, mais la plainte va servir à rien. Le gérant, puis on peut boycotter l'endroit, ça c'est très bien, c'est un pouvoir économique, mais le pouvoir qu'on a en ce moment, c'est de faire une plainte à l'Office québécois de la langue française, et aussi d'être là pour veiller au grain en ce qui concerne ce qui se passe à l'Assemblée nationale. En ce moment, c'est les consultations. Donc, j'espère que le ministre Jolin Barrette va écouter toutes les propositions parce que c'est pas assez fort encore là pour la langue française. C'est un début. Mais les commerçants n'auront pas le choix de se soumettre au projet de loi 96. Et en ce moment, ben, c'est vraiment, on est en train d'effacer notre langue sur les affiches. On est en train de nous effacer comme peuple. C'est vraiment un mépris envers nous et c'est très bien qu'il y ait le Journal de Montréal pour en parler davantage. Que le français fasse les premières pages de journaux, pour moi, c'est une victoire. C'est une victoire parce que les gens vont être tentés aujourd'hui, Sophie, de se dire, ah ben dis donc, moi peut-être je vais aller, puis je veux pas me faire poursuivre, mais je vais peut-être aller dans un autre marchand de café ce matin parce que j'ai pas envie d'encourager un commerçant qui ne me respecte pas, qui n'a pas envie de me respecter, de me servir en français et qui n'est pas au courant de la langue française, qui est la langue commune. Et c'est ce qu'on veut, on se bat pour que la langue française soit la langue commune au Québec.
Sophie, il y a une question qui, pour moi, est au cœur de tout ça. Toi et moi, bon, moi j'ai 55 ans, je ne sais pas quel âge t'as, mais je pense qu'on est de la même génération. Toi et moi, on a cette discussion-là, les gens, je voyais Louise Beaudoin interviewée dans le Journal de Montréal pour réagir à ce dossier-là. Tu parles à quelqu'un qui a 18 ans, tu parles à quelqu'un qui a 25 ans. Ce débat-là sur le français leur passe 92 pieds au-dessus de la tête. Ouais. C'est une génération qui est constamment en train de parler franglais. Sur les médias sociaux, c'est un mot en français, un mot en anglais. Comment on fait pour sensibiliser les jeunes à avoir le même militantisme, mettons, que toi et moi, on peut avoir?
Ben, tout simplement en leur parlant de notre histoire, en leur parlant de notre disparition, en leur disant dans 20 ans, peut-être qu'à Montréal, tu pourras même plus parler français. Et aussi en leur parlant de l'importance d'étudier en français jusqu'à l'université et en faisant des lois. Je pense que, bon, moi je suis un enfant de la loi 101, n'eût été la loi 101, je ne parlerai que lituanien et anglais en ce moment. Donc il y a vraiment des avancées. Personnellement, ça a été extraordinaire quand je regarde une génération de lituaniens qui ne parlent pas français, qui sont arrivés avant la loi 101. Il y a des avancées. Maintenant, il faut étendre, comme Guy Rocher a dit, il faut étendre la loi 101 au cégep. Et donc, on n'aura pas le choix d'imposer des lois et à ce moment-là, aussi d'intéresser les jeunes, de leur faire prendre conscience que on peut vraiment perdre notre langue.
Ouais.
C'est extrêmement important d'avoir l'anglais parce que c'est utile, c'est extrêmement important d'avoir de connaître les autres langues, c'est un passeport international. Mais il faut pas au détriment de la nôtre. Il faut pas mourir, il faut pas nous effacer comme les commerçants essayent de nous donner comme message, quoi.
Ouais.
Et c'est le côté militantisme de boycotter, c'est pas fort de mon côté. Je pense que c'est très important de le faire en ce moment, de dire aux responsables de ces grandes chaînes internationales, si vous nous respectez pas, on va choisir d'autres commerces.
Oui. Tu sais que, bon, évidemment, en ce moment, il y a les audiences pour le projet de loi 96 et il y a des représentants de la communauté anglophone qui sont interviewés, qui témoignent et qui disent, ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Ceux qui étaient unilingues anglais, bon, ça fait longtemps qu'ils ont quitté le Québec parce que après l'élection du gouvernement péquiste en 1976, tous les récalcitrants vraiment ont quitté puis sont tous partis à Toronto. Ceux qui restent ont on est bilingue, nos enfants vont à l'école française, on est super, tout va super bien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Qu'est-ce que tu répondrais aux anglophones qui trouvent que déjà ils en font beaucoup puis qu'il faut pas aller encore plus loin dans la défense de la langue française?
Je crois qu'il faut pas être contre eux, il faut être avec eux, mais je crois qu'il y a encore beaucoup d'anglophones, malheureusement, qui ne veulent pas parler français et qui sont là depuis 30 ou 40 ans ou 50 ans. Il faut tout simplement leur dire, oui, c'est une richesse, on n'est pas contre l'anglais, on est pour le français. C'est ça la différence. On est pour le français, mais c'est extraordinaire, soyez bilingues. Mais ici, au Québec, il faut leur faire comprendre que la langue commune, c'est le français. Point barre. C'est tout. Et je vais aller dans une expérience personnelle, Sophie. Cet été, je suis allée au Nouveau-Brunswick.
Et là, là.
En deux semaines,
ouais.
C'est la seule province bilingue officiellement. En deux semaines, il n'y a personne qui m'a dit bonjour, aïe. Alors,
c'est bon, j'adore
oui,
ça.
C'est magnifique, c'est extraordinaire. Ils respectent qu'il y ait deux langues officielles. Alors moi, je disais bonjour. Alors les gens me disaient bonjour. Et même, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, oh écoutez, I'm sorry, I don't speak French, mais ils s'excusaient, ils étaient très 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 mal. Alors qu'ici, à Montréal. On n'est pas. On nous dit bonjour, aïe. J'étais vraiment étonnée et chapeau pour le Nouveau-Brunswick parce que je n'ai pas entendu une seule fois le bonjour, aïe.
Très intéressant. Alors que.
C'est vraiment intéressant.
Oui, ouais. C'est ça. Moi, pas plus tard qu'en fin de semaine, j'étais dans le Vieux-Montréal, hein, tu sais, et un restaurant de salade bien connu. La fille me reçoit avec un bonjour, aïe. Alors je lui dis. Pouvez-vous juste me dire bonjour? Si je vous parle en anglais, vous me parlerez en anglais. Si je vous parle en français, vous parlerez en français. Mais juste m'accueillir avec un bonjour. Et je lui ai dit, même le premier ministre François Legault l'a demandé, a lancé un appel aux entreprises à l'Assemblée nationale. Puis elle m'a dit, qu'est-ce que vous voulez manger? C'est comme il y avait zéro discussion possible. Il faut étendre un petit peu cette discussion-là parce qu'une chose dont les anglophones qui sont interviewés à propos de la loi 96 ne parlent pas, puis je pense même Anne-France Goldwater, quand elle fait semblant qu'on vit dans un beau pays bilingue puis qu'elle peut se faire servir en français sans aucun problème de Halifax à Vancouver, c'est qu'on ne parle pas de l'immigration. On ne parle pas des gens d'immigration récente parce qu'évidemment, leurs enfants, à cause de la loi 101, vont être éduqués en français. Ça, la question ne se pose pas pour la deuxième génération. Mais des immigrants récents qui sont venus ici au Québec, on leur a jamais dit qu'au Québec, ça parlait français. Eux, ils immigrent, ils disent « c'est le Canada ». Mais ces gens-là, il y en a une grande proportion qui ne parlent pas un mot de français. Et ça, les militants anglophones n'en parlent jamais de ça.
Non, et quand ils arrivent, justement, ils sont étonnés, ils sont pas au courant de ce qui se passe, de notre culture, du français. Et moi, je trouve que c'est très, très important de leur dire, avant même qu'ils traversent, avant même qu'ils aient leurs papiers, vous savez, vous allez au Québec, on a la langue française, c'est ce que vous allez apprendre en premier. Mais ils ont pas d'outils, on leur donne pas d'outils. Alors, entre choisir de se trouver un travail ou prendre un cours de français, bien souvent, ils vont préférer, évidemment, choisir un travail. travail et mettre l'argent. Il n'y a pas assez de gens qui donnent des cours de français aux immigrants qui arrivent et il y a une méconnaissance de l'histoire de notre langue pour les gens, les immigrants qui viennent en terre d'adoption. Et ça, c'est extrêmement important. Et moi, ça me fâche vraiment quand les gens sont fâchés contre les immigrants. Oui, c'est fâchant, mais il faut comprendre le contexte. Il faut comprendre que souvent, ils ont fui le pays. Ils sont partis rapidement et on leur a dit, bon, ben, c'est le Canada. Le passeport, c'est le Canada. C'est le Canada qui va vous accueillir. Et on ne leur a pas expliqué qu'au Québec, on parle français. Et donc, il y a vraiment une méconnaissance à tout point de vue à ce niveau-là. Et ça, c'est vraiment pas bien. Il faut changer les choses, mais il faut leur donner des outils nécessaires. Ouais. Il faut leur donner des cours dans les entreprises. Il faut vraiment, ça devrait faire partie quand ils arrivent, ils ont un cours, il est gratuit, ils y vont tant de jours par semaine et leur faire comprendre que si vous parlez pas français, ça va être très difficile de travailler. Mais dans les faits, c'est pas vrai.
C'est pas vrai. Il y a plein d'entreprises qui les engagent. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut évidemment pas ostraciser ou stigmatiser ces gens-là. Mais par contre, on peut se tourner vers les entreprises qui les engagent en disant, écoutez, pouvez-vous au moins, tu sais, je veux dire, c'est une compagnie de pizza, puis t'engages des livreurs de pizza, et que ton livreur de pizza, il arrive chez moi, il est même pas capable de me dire « Bonjour, voici votre pizza ». C'est pas la faute du gars, c'est la faute de l'entreprise qui l'engage et qui est même pas capable de dire à son employé « Regarde, si tu veux avoir un pourboire, minimalement, sois au moins capable de dire bonjour, merci, au revoir à la personne à qui tu vas livrer. » Donc, c'est quand même hallucinant que des entreprises pensent que c'est correct.
Oui, alors, ou si on revient toujours avec la charte de la langue française, moi, j'aurais carrément obligé les entreprises, toutes les entreprises, peu importe le nombre d'employés, à ce que les employés parlent français. Je veux dire, c'est tout.
Oui, mais tu sais ce qu'on va répondre, Sophie, c'est qu'on va dire il y a une pénurie d'emplois. Hein, il y a une pénurie d'emplois, puis en ce moment, même pour trouver quelqu'un qui vient te livrer ta pizza, et tout le monde est sur la PCU, le PCRE, puis les gens restent chez eux assis sur leurs deux mains. Bref, en tout cas, je veux pas faire de caricature, mais il y a vraiment une pénurie d'emplois, donc les gens vont te répondre, ben on prend ce qu'on trouve, et si ce qu'on trouve, c'est uniquement des gens qui parlent anglais, ben on va prendre ça.
Non, mais alors il y a vraiment la pénurie, la COVID, le dos large pour la langue française.
C'est bien dit.
Non, mais c'est vrai. Je veux dire, il faut arrêter tout ça parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte qu'on va disparaître. J'ai eu une belle conversation avec Gérald Larose qui dit et qui confirme qu'on va disparaître si on s'occupe pas aussi. Et il faut de la langue française et il faut des dents. Il faut des dents pour la loi. Il faut que ça soit beaucoup plus sévère parce que sinon on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas tout seul et ça prend une loi. La loi 101 a prouvé que les filles des migrants que je suis parlent français et tous les immigrants qui sont là parlent français. Donc il faut étendre la loi 101 au cégep aussi, hein, parce que sinon on sait très bien ce qui va se passer. Les gens vont à l'extérieur, vont étudier en anglais. Donc ça c'est très très important. Et aussi au niveau de l'affichage, une loi plus forte pour l'affichage commercial.
C'est important.
On n'est pas une prédominance, on est un peuple, on est une langue. Moi, je déteste cette expression qu'il faut faire une prédominance du français. Non, on est fiers de parler français au Québec et on ne doit pas prédominer, on doit dominer.
Très bien dit. Très rapidement, Sophie, en moins d'une minute, élection municipale, toi, tu es des porte-parole pour Montréal, donc... Deux candidats. Est-ce qu'il y en a un plus que l'autre qui met le français en priorité?
Ce que Valérie Plante a proposé, c'est très intéressant dans son mandat, c'est-à-dire qu'elle propose de s'occuper davantage du français, de faire une espèce de refonte à la ville de Montréal. Ça, je trouve ça intéressant. Au niveau de Nicodère, j'attends de voir sa plateforme, mais il y a d'autres candidats. Il y a Marc-Antoine Desjardins qui a eu, dans le dernier sondage, 13%. Et lui, il veut vraiment, il propose... de s'occuper du français avec les Anglais. Et ça, c'est très, très intéressant. J'ai regardé sa plateforme et pour l'instant, c'est celle qui me plaît le plus. Mais j'avoue que Valérie Plante, à la fin de son mandat, elle a fait des propositions tout à fait intéressantes pour protéger le français.
Excellent. Parfait. Alors, bon, ben alors, voilà. On encourage évidemment les gens, comme d'habitude, avant de voter, allez donc voir la plateforme des partis pour lesquels vous allez voter. C'est quand même la base et s'assurer que ça correspond à vos valeurs. Sophie, c'est toujours intéressant de te parler. Sophie Stanquet, qui est présidente et porte-parole du mouvement Québec français Montréal. Puis c'est bien de rappeler que tu es une fille d'immigrante et que, parce que tu parles, tu sais, je veux dire, c'est pas évident pour tout le monde, mais ton papa, Alain Stanquet, donc, qui est arrivé au Québec après avoir connu l'horreur en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale, ben, tu es une fière francophone aujourd'hui et on t'en remercie. Merci beaucoup, Sophie.
Merci, Sophie Durocher. Au revoir.
Au revoir.
Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
Et notre rencontre aujourd'hui ne sera pas avec Marie-Claude Barrette, mais avec quelqu'un qui est chroniqueur, analyste en politique publique que vous entendez régulièrement sur nos ondes, Patrick Derry, avec qui j'ai toujours du plaisir. Bonjour Patrick, comment vas-tu?
Bonjour Sophie, ça va toi?
Ben, ça va très bien. Écoute, je suis tellement contente que tu veuilles me parler aujourd'hui de Joanne Liu parce que ben, c'est quelqu'un qui est extrêmement respecté dans son domaine, la santé publique, et elle vient de recevoir un prix super important. C'est quoi ce prix-là et pourquoi c'est important d'en parler aujourd'hui?
Oui, ben, d'abord, Joanne Liu, pour rappeler, c'est l'ancienne présidente de Médecins sans frontières, qui est une organisation qui intervient dans des endroits où ils ont des crises sanitaires importantes et pas beaucoup de moyens. Donc, elle a été en Afrique lors de l'Ebola, elle a été en Syrie aussi pour faire la médecine de guerre. En tout, elle a 25 ans d'expérience à la gestion de crises sanitaires, parce que c'est beaucoup de la logistique, hein. C'est une logisticienne, une organisatrice. Puis elle fait ça dans des conditions extrêmement difficiles et elle obtient des succès. Écoute, en 2015, elle avait fait le top 100 des personnes influentes du magazine Time.
Oui, on se rappelle.
Donc, c'est une personnalité importante. Et au printemps 2020, l'autre chose, la raison pour laquelle on en parle, c'est que on avait appris que le gouvernement du Québec, qui s'était fait proposer les services de Joanne Liu, avait refusé de l'embaucher parce qu'on la jugeait incontrôlable. Et écoute, on lui a même dit qu'elle manquait d'expérience dans la gestion d'épidémies au Québec.
Mais non, c'était absurde. C'était absurde, Patrick. Je m'en rappelle fort bien, à l'époque, justement, j'avais fait des entrevues avec Joanne Liu sur les ondes de Cube. Et c'était absolument hallucinant parce que c'est comme si on disait, t'as géré quelque chose de 8 fois plus complexe dans des conditions 15 fois pire que ce qui se passe ici au Québec, mais vu que tu l'as jamais géré ici au Québec, on te prendra pas, on va prendre quelqu'un d'autre qui a moins d'expérience que toi. C'était absurde.
Non, c'est ça, je suis sûr. Tu sais, tu prends Mario Lemieux, ou en tout cas c'est Nick Crosby là, pour les plus jeunes, là, puis tu descends au niveau junior, là, il va être encore capable de marquer des points, ça va être juste plus facile.
Ah, et c'est bon! Hey, j'aime ça quand tu fais des analogies de hockey, même si j'y comprends rien, parce que je connais rien au sport, mais je pense qu'on est tous capables de comprendre. Si tu es capable de courir un marathon, je pense qu'on peut t'envoyer faire un sprint de 100 mètres.
Tu vas être quand même capable d'en battre une coupe.
Oui.
Écoute, et donc, hier, Mme Liu a reçu un prix lors d'un congrès panaméricain, et chapeauté par l'Organisation mondiale de la santé pour la gestion de services sanitaires et le leadership. Le prix reconnaît la contribution exceptionnelle de la Dr Liu dans le domaine de l'humanitarisme médical et l'intervention et la gestion de crises sanitaires. Et on souligne en particulier son expertise pour la réaction aux pandémies et pour la préparation des systèmes de santé. Donc, tu sais, c'est exactement ce qui a fait défaut, pas juste au Québec, là, à l'échelle de l'Occident en général, mais au Québec en particulier, si on se fait, prendre de court. Hein, on a
Absolument.
Commandé les équipements. L'équipement de protection a été commandé, ça faisait déjà presque 2 mois que le virus était là. Et fait, bref, ça pour dire que nul n'est prophète en son pays, mais...
Mais c'est plus que ça. Mais j'aime bien évidemment ton analogie de dire nul n'est prophète en son pays, t'as tout à fait raison. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de même plus décourageant que ça. C'est pas juste le fait qu'au Québec, on n'ait pas fait appel à son expertise, c'est que on a commis des erreurs qui, on aurait dû se baser justement, au-delà de Joanne Liu, sur le fait que ailleurs dans le monde, il y a des crises comme ça, semblables, qui avaient été gérées, et on n'a pas retenu les leçons de ces crises-là. Donc, c'est doublement décourageant, parce que non seulement on n'a pas reconnu l'expertise de cette personne-là en particulier à laquelle on aurait pu, mais c'est qu'on n'a pas retenu l'expertise de d'autres personnes aussi qui avaient vécu des choses semblables. On n'a pas tiré les leçons qu'il fallait.
En fait, c'est, il y avait une forme d'arrogance là-dedans parce qu'on se croyait à l'abri d'une certaine façon. Tu sais, c'est pas juste l'expertise. Écoute, même l'expertise qu'on avait acquise ici, parce que dans la foulée, la crise du SRAS en 2003.
Mais oui, à H1N1, ouais.
44 morts à Toronto en 2003, le SRAS. Il y a des leçons qui ont été tirées en Ontario, mais des leçons qui ont été tirées au Québec aussi, notamment l'INSPQ, quelques années plus tard, qui avait émis un rapport en 2007, puis qui avait dit, entre autres, il dit, écoutez, une des premières choses qu'on devrait faire, s'il y a une pandémie qui devait se déclarer avec un virus respiratoire, c'est demander à tout le monde de porter un masque. Ça, c'était en 2007. Ouais. C'était l'Institut national de santé publique. Et nous, les gens qui travaillent à la Direction nationale de santé publique ici, évidemment, ce n'est pas des incompétents, mais ce n'est pas des gens qui sont habitués à affronter des pandémies. Des pandémies au Québec, on n'a jamais vécu ça. En fait, on a vécu ça la dernière fois, c'est la grippe espagnole. C'était quand même un certain moment. C'est des gens qui sont habitués à, pour des déterminants, là, c'est des problèmes de santé mentale, d'obésité, les quartiers défavorisés, l'alcool, toutes ces choses-là, c'est des choses qui bougent vraiment pas vite. Évidemment, c'est des choses importantes, mais je veux dire, t'agis sur des choses structurelles. Une pandémie, ça se déplace vite en tabarouette. Et ce qu'on n'avait pas, c'est des logisticiens, des gens qui comprennent aussi comment ça fonctionne, puis c'est quoi l'effet. Puis Joanne Liu, tu sais, elle a lancé plusieurs signaux d'alarme, des tribunes, et c'est tombé essentiellement dans l'oreille d'un sourd. Et c'est un peu dommage.
Oui, et c'est d'autant plus dommage que, je veux dire, en tout cas, je ne sais pas si tu as vu le documentaire, là, les 100 jours de préparation à la vaccination, où on voit toute la mise en place de ce programme-là de vaccination, puis c'est très bien, puis on voit que ça a été super bien organisé, mais je pense que si on avait fait le même documentaire qu'on avait eu accès au début de la pandémie, quand tu avais Dr Arruda qui disait non, il ne faut pas porter le masque parce que ça donne un faux sentiment de sécurité. Je pense que les résultats n'auraient pas été aussi reluisants, disons, pour l'équipe Legault. Écoute, justement, parlons-en de la situation au Québec. On peut regarder ce qui se passe en Alberta, où c'est vraiment la déroute, là. Je veux dire, c'est absolument atroce, la situation là-bas. Si le Québec avait fait la même chose que l'Alberta au mois de mars, qu'est-ce qui serait arrivé?
Écoute, la comparaison est intéressante à faire. On se rappelle, là, fin mars, 23 mars, M. Legault disait que...
2021. Québec, tu parles du 2021.
Oui. 2021, oui, absolument, cette année. Là. Si on oui. parle à l'aube de la troisième vague, le premier ministre disait que le Québec résiste aux variants, résiste à la troisième vague. C'était une belle métaphore patriotique qui n'était pas très ancrée dans la réalité, mais ça faisait juste dire que pour l'instant, on n'avait pas trop de cas. Et là, j'ajoute une parenthèse, parce que ceux qui regardaient la progression du variant alpha, à ce moment-là, en se séparant du reste, voyaient que ça montait, puis que ça montait vite. Mais bon. Et Dr Arruda avait dit, lui, qu'il pouvait vivre avec 2000 cas par jour. Hein? Bon, peut-être qu'il y a des gens qui vont mourir, mais s'il n'y en a pas trop, c'est pas si pire que ça. Et le lendemain, la déclaration de Dr. Arruda, écoute, c'était un demi-tour absolument spectaculaire. C'est la veille, Dr. Arruda, il citait dans une entrevue dans la presse, il dit non, faut surtout pas paniquer, là, on a peur des fois, puis faut pas. Et là, on ferme des centaines d'écoles, on impose des nouvelles restrictions. En fin de compte, au cours du printemps, il y a eu quelques centaines de morts, ce qui n'est pas négligeable. Quelques milliers d'hospitalisations, ça entraînait encore des retards délestages, mais c'est, on a évité le pire. Mais qu'est-ce qui serait arrivé si en mars, le politique s'était pas réveillé puis avait persisté en disant non, faut qu'on vive avec le virus? Puis justement, en Alberta, on a une idée de la réponse. Fin juillet, en Alberta, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, fini les masques, plus de traçage des contacts, plus besoin de s'isoler si on a des contacts de la COVID. La docteure Incha, qui est l'équivalent de la docteure Arruda au Québec, elle dit, tu sais, essentiellement, là, c'est maintenant, on traite la COVID comme les autres virus respiratoires. On traite ça comme une grippe. Et c'est vraiment ce qu'elle a dit. Et écoute, même le Parti conservateur albertain s'est mis à vendre des casquettes « Best Summer Ever ». C'est le meilleur été de tous les temps.
C'est quasiment « Make Alberta Great Again », là. Mais non, mais j'aime beaucoup l'anecdote de la casquette. C'est aussi que l'exemple de l'Alberta, parce qu'il disait que c'était comme une grippe, parce qu'il disait que la pandémie était terminée. Même ici, au Québec, là, tu sais, des Maxime Bernier ou des Éric Duhaime disaient « Oh mon Dieu, l'Alberta, c'est l'exemple à suivre » et tout ça. Ben, et heureusement qu'on ne l'a pas suivi, cet exemple-là, parce qu'écoute, ils en payent le prix en tabarouette, là.
C'est un désastre. Il y a un mot d'ailleurs à dire, là, sur ceux qui disaient « Ah oui, la Suède », puis après ça « Ah oui, la Floride ». Puis, oui, le Texas. Puis là, ils n'arrêtaient pas de se promener d'un pays à l'autre, puis à l'autre. Puis finalement, ils sont trompés à toutes les fois, puis ils continuent encore. Mais bon, présentement, en Alberta, on a 1600 cas par jour. Là, je rappelle la déclaration de Dr. Arruda. On est capable de vivre avec 2000 cas par jour. Là, c'est 1600, c'est même pas 2000. Au Québec, juste pour donner une idée, on est autour de 700 présentement. Mm-hmm. Là, en Alberta, on a dépassé les 1000 hospitalisations actives. C'est le plus haut niveau d'hospitalisation depuis le tout début de la pandémie, même plus haut qu'à Noël l'année passée. Toutes les chirurgies urgentes, non urgentes ont été annulées. Toutes, même celles pour les enfants, ils n'en font plus, ils ne sont plus capables. Ils sont rendus à 15 morts par jour en moyenne, ce qui est quand même quelque chose.
Décourageant.
Une semaine, ça fait 100 morts. Et la population est quand même vaccinée à deux doses à 60 %. C'est moins que le Québec, on est un peu en haut de 70 %, mais tu sais, c'est pas... Tu sais, imagine, là, pas de vaccin, qu'est-ce que ça serait, là, au printemps, au mois de mars, essentiellement, tu avais les aînés, puis le personnel de santé qui
étaient vaccinés. C'est tout. Ben oui.
Il avait reçu une dose, là. Écoute, ça aurait été un désastre d'une ampleur incroyable. Fait que c'est intéressant de regarder en rétrospective parce que, tu sais, Mané, Dr. Arruda avait parlé des différents cycles de la peur en parlant des directeurs régionaux de santé de santé publique qui disaient, écoute, on lèvera pas tout ça tout de suite parce que sinon on va se ramasser dans le trouble. Puis il avait voulu se faire rassurant, mais écoute, on a probablement évité une catastrophe.
Oui, mais ça c'est intéressant et c'est pour ça que c'est le fun de te parler aujourd'hui, Patrick, c'est que il y a les anti-vaccins, mais de façon plus générale, il y a les anti-mesures sanitaires là qui sont contre le masque, les anti-toutes. Bon, ben si les anti-toutes regardaient aller l'Alberta en disant hey waouh c'est le fun, comment ça se fait qu'on les entend pas aujourd'hui dire bon ben comment ça se fait que même l'argument de l'Alberta ne réussit pas à convaincre ces gens-là que les mesures sanitaires, elles sont plates, mais elles fonctionnent?
Bien, tu sais, moi, j'en connais quelques-uns. Là. Dans une autre vie, j'ai côtoyé un peu ces gens-là. Puis c'est parce qu'ils commencent à réfléchir en décidant de la conclusion. En fait, réfléchir, c'est un bien grand mot, là, mais bref, ils décident de la conclusion d'avance. Fait que pour eux autres, la liberté absolue, totale, en toutes circonstances, c'est une valeur cardinale. Fait que qu'est-ce qu'ils cherchent après ça? Ils cherchent un endroit, puis là, je sépare en deux groupes, parce que tu as des gens qui sont, disons, mal informés. Puis ça, on sait que, par exemple, la résistance à la vaccination, écoute, c'est proportionnel au taux de scolarité. Je le dis sans aucune condescendance.
Oui, là, c'est factuel.
Quand tu comprends un petit peu moins bien comment la connaissance scientifique se construit, là, ben, ça se peut que tu aies plus tendance à être méfiant, tandis que si à un moment donné, tu as fait deux maîtrises puis un doctorat, puis là, tu travailles en sciences, ben peut-être que tu vas avoir plus confiance. C'est des extrêmes, c'est des caricatures, mais le reste, on le voit entre les deux. Puis d'ailleurs, ça se répète dans le système de santé, parce que les médecins sont les plus vaccinés, les inothérapeutes, après ça, les infirmières, puis tu descends. Puis les moins vaccinés, c'est les infirmières auxiliaires puis les préposés aux bénéficiaires. Dans la population en général, c'est ça. Mais tu as aussi des leaders intellectuels, et je mets ça en guillemets, dans les antivax, qui eux autres manipulent un peu l'autre gang à des fins politiques. Et eux autres, ils comprennent, mais ils veulent juste rien savoir. C'est ça, c'est Éric Duhaime, c'est Maxime Bernier, c'est Jonathan Hamel et d'autres. C'est des libertariens, je dirais, complètement enragés et qui, à un moment donné, confondent, tu sais, dans une société, tu as des limites raisonnables aux
oui.
libertés individuelles. C'est reconnu par notre charte, c'est reconnu par les tribunaux, c'est reconnu aux États-Unis. Écoute, je disais il n'y a pas longtemps, là, la Cour suprême des États-Unis, là, the land of the free, là, c'est des États-Unis qui n'aiment pas la liberté à la légère, quand même, on le sait. Là, tu sais, c'est le pays là, du
oui.
le droit au port d'armes est reconnu. En 1905, la Cour suprême a décidé, par rapport à la vaccination, là, je ne me rappelle plus exactement sur quelle maladie, mais en gros, tu as le droit de refuser un traitement, tu n'as pas le droit de refuser, tu n'as pas le droit d'infecter les autres.
Ah, mais ça, c'est bon, mais la nuance est importante. Oui, c'est ça. Mais tu vois, quand tu parles de ça, de cette notion-là de liberté, mais la liberté, de toute façon, elle est restreinte. C'est sûr qu'il y a plein d'exemples qu'on peut donner. Si tu es contre le passeport vaccinaire, ben à ce moment-là, il faut que tu sois contre le fait qu'on contrôle ton âge quand tu veux acheter un billet de loterie, quand tu veux aller à la SAQ, quand tu veux rentrer dans un bar. Si tu es contre les limites au déplacement. Par exemple, Justin Trudeau qui dit, bon, ben, pour utiliser les transports, il faut que tu montres que tu as un passeport vaccinal. Ben, à ce moment-là, tu es contre le fait qu'il y a des limites de vitesse sur l'autoroute. C'est que la liberté, de toute façon, dans la société actuelle, elle est restreinte de différentes façons. Donc, même ça, c'est une théorie qui tient
mais,
pas debout.
Mais eux, ils sont pas d'accord. Ils sont juste pas d'accord. Pour eux autres, c'est un absolu. Mais tu sais, moi, ce que je leur réponds, c'est, écoute, tu as le droit, mais reste chez vous. C'est des pneus d'hiver. Hein? Au Québec, là, personne ne t'oblige à acheter des pneus d'hiver. Mais si tu ne veux pas t'en acheter, ben, tu ne conduiras pas en décembre et mars.
Voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Si tu ne veux pas te faire vacciner, si tu ne veux pas vacciner tes enfants, ben, reste chez vous avec tes enfants, puis va jamais au restaurant, puis va jamais au cinéma, puis vis en ermite. Il se trouve que nous, on vit en société. Mais écoute, la comparaison avec l'Alberta est drôlement intéressante. Et évidemment, c'est excessivement triste ce qui arrive en Alberta, mais on n'est pas assez proche. Hein? Heureusement qu'on n'a pas suivi ce chemin-là, parce qu'on en paierait le prix aujourd'hui. Écoute, moi, c'est quand je vois toutes les chirurgies non urgentes, même les chirurgies pédiatriques qui sont annulées. Écoute, t'as pas envie d'être albertain en ce moment. Merci beaucoup, Patrick. À la prochaine chicane. Ça a été drôlement intéressant. Patrick Derry, donc chroniqueur et analyste en politique publique. Toujours intéressant de parler avec toi.
À la prochaine.
À la prochaine.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Cube Radio.
En cette période de pandémie, ça pullule vraiment sur les médias sociaux. Toutes sortes d'idées complotistes, toutes sortes de gourous qui se présentent, qui se prononcent sur des questions scientifiques. Tout ça ressemble beaucoup à une secte. On a l'impression qu'il y a des sectes d'anti-vaccins, d'anti-mesures sanitaires. Ça prend vraiment l'aspect d'une religion. J'avais envie d'en parler avec Mike Kopfeldt, qui est directeur et fondateur d'InfoSect. Bonjour, Monsieur Kopfeldt.
Bonjour.
Est-ce que vous notez, vous aussi, au cours des derniers mois, cette résurgence de certaines idées qui ressemblent vraiment à un phénomène de secte?
Alors, effectivement, depuis que plusieurs mois, on a vu l'augmentation du nombre de demandes qu'on reçoit des familles, des proches qui ont quelqu'un qui a embarqué à un extrême dans les différentes croyances liées au le phénomène de la pandémie. Et c'est vraiment déchirant pour des familles et des proches à cause que ça cause vraiment une division. Et c'est jusqu'au point de certaines fois complètement rompu de communication. Et c'est vraiment déplaçant pour les familles.
Oui. Alors donc, ce sont les familles qui vous appellent en disant, bon, je sais pas, mon fils, mon mari, mon frère, a complètement...
Oui. Mes parents aussi. Vraiment, c'est bien, en effet, de tout le monde. effectivement. Et je crois que, je pense que c'est important de noter qu'il y a des similarités parce que ça devient comme une croyance, comme vraiment comme presque comme une conversion religieuse où les gens sont vraiment comme en mission d'essayer de convaincre les autres, spécialement leurs proches, à leurs idées, à leurs croyances.
C'est ça. Donc, c'est pas juste que les gens croient en une idée X, c'est qu'ils sont convaincus qu'il faut qu'ils aillent prêcher la bonne parole et convertir aux bonnes évangiles. Là, il y a un côté prosélytisme, comme dans une religion ou comme dans une secte.
Alors, pour certains, c'est un petit peu comme ça, parce que je pense qu'on peut pas mettre tout le monde dans le même panier.
Bien sûr.
Parce qu'il y a différents niveaux d'implication. Il y a même, si on parle des questions de vaccin, il y a même ceux qui ont croyé qui étaient contre le vaccin, même avant la pandémie. Ça veut dire que vous avez en effet un phénomène qui regroupe des gens avec des différentes croyances et certains qui vont croire à l'extrême. Et ça, c'est des gens qui nous contactent comme ça, vraiment des vies extrêmes. Et certaines fois, je vais vous dire aussi, on rencontre, en fait, par téléphone, des personnes qui sont en détresse, qui croient un petit peu à ces idées-là aussi.
Qui vous appellent pour quelle raison à ce moment-là? Pourquoi quelqu'un qui est impliqué dans cette idéologie-là va appeler InfoSecte?
Pour en discuter, parce que c'est pas question, on va pas nécessairement, en effet, on va pas aller faire éduquer ou étiqueter des gens comme vous êtes dans un secte ou vous êtes complotiste. On va parler aux gens parce que notre approche et parce qu'on parle et on travaille avec des familles et des proches, c'est comment améliorer au minimum de maintenir la communication et le contact avec les gens.
D'accord.
C'est pas pour en essayer d'embarquer dans est-ce que vous avez raison ou pas raison. Parce que en général, le conseil qu'on donne, d'essayer d'embarquer dans la discussion des faits avec quelqu'un qui croit à quelque chose, c'est presque une perte de temps. Et même indirectement peut renforcer la croyance de votre proche.
Oui, parce qu'il va se sentir persécuté si on conteste quelque chose dans lequel il croit profondément. Si on commence à argumenter avec eux, ils vont juste se sentir exclus et persécutés. Donc, ça va renforcer leur idée que c'est eux qui ont raison.
Ah oui, et aussi par le fait, si moi je crois que vous n'avez pas raison, et vous êtes en effet comme certaines expressions, lavage de cerveau par l'État, etc. Et vous commencez à me rencontrer des faits qui viennent, à mon opinion, comme croyant de l'État, et directement, ça renforce que moi, effectivement, j'ai raison. Et ça amène à, effectivement, discuter, de maintenir des contacts. Et c'est la raison, dépendamment pourquoi les gens au téléphone, on essaie de les aider, donner des idées, des approches, en être conscient aussi qu'il n'y a pas de solution rapide ou miraculeuse. Parce que ceux qui embarquent dans des différentes croyances, ou qui croient à l'extrême, aussi, on doit essayer de comprendre pourquoi. Et des gens sont différents.
D'accord.
Qu'est-ce que les de croire, qu'est-ce que ça les donne, parce que généralement, c'est aussi un besoin d'avoir sécurité. Il y a beaucoup de gens que je sais qui sont en détresse, qui ont peur, sont inquiètes de qu'est-ce qui se passe et cherchent des réponses simples.
Oui, voilà. Des réponses simples. Ça, c'est vraiment le mot-clé dans ce cas-là, M. Kopveld. Écoutez, il y a quelque chose qui a beaucoup circulé sur les médias sociaux au cours des derniers jours. C'est quelqu'un qui est installé au Québec depuis le début des années 2000. Il est originaire de Belgique. Il s'appelle Jean-Jacques Crèvecoeur. Il y a eu des portraits de lui dans les médias où on le présente comme le gourou des Laurentides. Et il était sur YouTube. YouTube a fermé sa chaîne. Donc maintenant, il faut être abonné à sa chaîne privément pour pouvoir entendre ce qu'il dit. Mais il y a des extraits de ses propos qui ont circulé sur les médias sociaux. Je voudrais vous en faire écouter quelques extraits pour que vous puissiez les commenter. Alors, on écoute le gourou Jean-Jacques Crèvecoeur.
Je rêve de voir tous ces dirigeants pendus sur la place publique.
Il parle ici, bien sûr, des dirigeants de la santé publique. Je veux juste vous faire écouter un autre extrait où il parle des vaccins inoculés aux enfants.
Par ces injections de produits hautement toxiques, qui, je vous le rappelle encore une fois, est une attaque bioterroriste perpétrée par les membres du 4e Reich dans cette 3e guerre mondiale contre le peuple.
C'est subtil et nuancé. Comment vous réagissez quand vous entendez des extraits comme celui-là, M. Kopveld?
Alors, moi, généralement, La réponse à ça, c'est parce qu'il y a toutes sortes d'idées promulguées par toutes sortes de différentes personnes dans cette pandémie-là. À cause que je travaille avec les familles, les proches, notre approche, c'est de regarder comment les familles peuvent réagir face à ces situations-là, si quelqu'un croit en ces types d'idées. Parce que la question, c'est comment les faits qu'on voit avec les choses qu'il dit et comme des autres disent, il offre des idées très simples. En effet, c'est qu'il présente qu'est-ce qui arrive pour des gens qui veulent comprendre, en effet, quelque chose qui est complexe, parce qu'en effet, on doit être aussi conscient du fait que l'émergence des personnes comme lui, c'était présente au Québec, même avant la pandémie,
c'est-à-dire
son discours n'est pas nouveau, mais ça répond à un besoin. Et je pense que la question, c'est dépendamment de qu'est-ce que vous cherchez à savoir. En effet, la question, c'est aussi de comprendre qu'il y a vraiment comme un énorme manque de confiance dans le système et les structures traditionnelles. Quoi, si c'est politique, entreprise, sociale, etc. C'est-à-dire pour les familles, et c'est la raison que je reviens toujours sur ça, parce que ça, c'est notre, en effet, mission et notre façon de travailler, c'est avec des gens. C'est pas nécessairement faire une critique de qu'est-ce qu'ils disent, mais essayer des familles, comment aborder des situations quand ils ont quelqu'un qui croit en ces idées-là. Mm-hmm. Et comment de maintenir le contact. Ça veut dire parce que, en même temps, de faire une évaluation de tout qu'est-ce que quelqu'un dit, les questions, ça veut dire, même si quelqu'un dit, c'est pas vrai, ça change quoi l'opinion d'un croyant? Pas du tout.
Oui, c'est ça. La raison, quelqu'un.
C'est d'essayer d'aborder l'idée. Est-ce que, en effet, ça peut amener à, est-ce qu'il y a toujours, comme on dit, un potentiel de risque? Bien sûr. Je pense que quand vous avez des gens qui croient en extrême, le potentiel de risque existe. Mais si on revient à la base, ça veut dire que notre travail, de travailler avec les familles, les proches, même des gens qui quittent ce type d'environnement, c'est comment on a fait de maintenir le contact et comment l'aider.
D'accord. Alors, je vais vous poser la question différemment, M. Kopveld. Mettons que ma sœur, mais pas un bon exemple parce que je voudrais pas que ma sœur pense que je l'implique là-dedans. Alors, mettons ma cousine, OK? Mettons que ma cousine, elle croit que en ce moment, on vit la Troisième Guerre mondiale et que le Quatrième Reich est en train d'empoisonner nos enfants. Mettons. Comment, moi, je peux maintenir le contact avec ma cousine, qu'elle se sente acceptée, qu'on continue à communiquer ensemble, alors que les idées qu'elle véhicule me paraissent complètement ridicule. Quel genre de conseil vous donneriez à quelqu'un qui a un membre de sa famille, son père, son frère, qui croit qu'on vit la Troisième Guerre mondiale puis que c'est du poison qu'on met dans les veines de nos enfants?
Les questions, je vais dire premièrement à vous ou comme les gens, c'est qu'est-ce que vous cherchez à faire? Ça veut dire qu'est-ce que c'est votre but? Est-ce que votre but est réaliste? Si, quelles sont les stratégies qui peuvent vous aider à arriver à votre but? Si votre but, c'est d'essayer d'amener quelqu'un de quitter, je pense que c'est pas évident que ça va arriver. Et si ça arrive, ça va être pas nécessairement quelque chose court terme. C'est-à-dire, on doit regarder le processus. En effet, et si vous voulez, bien sûr, parce que certaines personnes n'ont pas le goût ou veulent pas continuer de garder le contact. Alors, ça, c'est leur option, c'est leur décision.
Mais
si vous voulez garder contact avec votre sœur, la question, c'est regarder, est-ce que vous pouvez garder la situation avec les yeux de votre cousin, par exemple? Pas pour vous être en accord, pour que vous deviez être en accord avec elle, mais pour comprendre comment elle voit le monde. Qui elle est? D'où elle vient? Est-ce qu'elle a toujours cru en des choses comme ça avant? Ou est-ce que c'est juste à cause de la pandémie? Est-ce qu'elle est seule, en effet? Est-ce qu'elle passe beaucoup de temps sur Internet? Est-ce qu'elle est coupée avec l'entourage? Est-ce qu'elle passe beaucoup de temps sur Internet? Alors, bien sûr, les raisons que je pose ces questions-là, c'est comme chaque situation, même qu'il y a une similarité, est différente. Et c'est important de comprendre ce cheminement de votre proche pour regarder, OK, comment d'aborder la situation avec elle. Et bien sûr, d'embarquer dans la discussion, d'essayer de convaincre quelqu'un, non, c'est pas vrai, et de me montrer des autres faits. Comme moi, je donne un certain exemple, c'est comme en effet, je suis votre meilleur ami ou votre cousin et vous allez tomber en amour avec quelqu'un. On a toujours entendu parler de l'amour aveugle.
Oui.
Alors, j'essaie de vous convaincre que vous êtes en amour avec quelqu'un qui est le manipulateur, qui cherche juste votre argent et j'attends que vous allez me dire merci Mike, je savais pas ça, je vais le laisser tomber tout de suite et trouver un autre gars demain. Alors, d'essayer de comprendre, en effet, que quelqu'un adhère au niveau émotionnel à quelque chose. Ça veut aussi essayer de le confronter la personne au niveau des faits, au niveau pratique, indirectement on renforce. Ça veut dire comment le rejoindre la personne que vous connaissez.
Très bon.
Comment le rejoindre la personne au niveau émotionnel. Et en même temps, si vous êtes inquiète, de dire je suis inquiète, mais pour quelle raison? Pas de dire parce que vous croyez en telle ou telle chose, mais souvent des gens ont vu un changement dramatique au niveau de la personnalité, au niveau du discours, etc. Ça veut dire, même en effet, si vous avez raison au niveau d'idées, la question c'est pour moi, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. C'est tellement rapide, je suis inquiète, je comprends pas.
Mm-hmm. De le ramener au niveau émotionnel, ouais, c'est très intéressant. Puis en même temps, vous nous dites, Monsieur Kropvel, que vous avez eu vraiment une augmentation là du nombre de personnes qui demandent de l'aide auprès d'InfoSect. Vous direz, c'est une augmentation de quoi? De 50%, de 100%, de...
Au niveau 50%, qu'est-ce que je peux dire? C'est comme avant la pandémie, on a eu des appels ou des demandes au niveau des gens qui croyaient à des idées anti-vaccins, etc. Maintenant, c'est depuis un an, c'est plus que centaines de demandes qu'on a reçues vis-à-vis cette situation. Et c'est plus large, c'est pas juste des questions, en effet, conspiration, parce que c'est aussi comme une étiquette.
Oui.
Et des gens qui croient à des choses croient à différents niveaux et pour différentes raisons. Alors, mais c'est vraiment comme plus qu'une centaine depuis le début de l'année. En effet.
C'est beaucoup, c'est beaucoup.
Presque un couple de fois, plus ou moins un couple de fois facilement par semaine qu'on reçoit ce type de demandes, en plus que les demandes qu'on reçoit normalement vis-à-vis des différents phénomènes, des groupes religieux et thérapeutiques, etc.
Ouais. Donc, mais le fonctionnement est un peu le même. C'est-à-dire que le fonctionnement d'un groupe religieux ressemble au fonctionnement ou à la façon de penser des gens qui sont anti-mesures sanitaires. Un point que
similarité. Oui. Je pense qu'on veut pas nécessairement dire exactement parce que dans certains groupes vous avez un leader, dans certaines croyances vous n'avez pas nécessairement un leader. Vous pouvez avoir des gens qui adhèrent à des idées vis-à-vis qu'est-ce qu'ils ont appris de l'Internet. Alors, ça veut dire que ça a changé un petit peu, en effet, que des groupes, en effet, qu'on s'occupe normalement.
Oui. Merci beaucoup, M. Kropvel. Et puis, merci d'être là, à InfoSect. Merci de continuer votre travail. Et je pense que c'est tout des bons conseils que vous nous donnez pour faire face, justement, quand on est inquiet. Parce que je vous avoue que quand je regarde ça aller, quand je vois, par exemple, ce monsieur qui a agressé une infirmière parce qu'elle avait vacciné son épouse sans que lui y ait consenti, quand je vois la violence aussi des rapports des gens qui manifestent devant les écoles, il y a comme un sentiment là, d'agressivité qui flotte dans l'air et c'est absolument pas agréable. Donc c'est important, votre organisme est important. Oui. Mike Kropvel, vous êtes directeur et fondateur d'InfoSec. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour votre opportunité.
Ça fait plaisir. Ben c'est comme ça hein, que l'émission va se terminer et c'est vrai que c'est très inquiétant ce qui se passe en ce moment. Je pense que tout le monde devrait respirer par le nez, devenir un petit peu plus zen. Merci beaucoup d'avoir été là et merci à Maxime Lacasse à la mise en onde, à la réalisation. Merci aussi à Florence Dastou. On a changé de Florence pour aujourd'hui. C'est Florence Dastou à la recherche. On la remercie. Elle commence dans le métier et elle est super bonne. Merci beaucoup et à demain.